Alors du coup, donc Coopaxis, qui est une association en fait qui a pour vocation à travailler autour des outils numériques, mais vraiment au service d'un développement social, économique du territoire, au service de l'humain aussi surtout. Et du coup, bon, en gros, hein, je vais vite. Et du coup, parmi les projets en fait qu'on accompagne, donc du coup, il y a le projet des brigades numériques. Le projet des brigades numériques, en fait, ça existe depuis 2016. Donc là, c'était la deuxième édition cette année. C'est l'idée de accompagner un groupe de 5 à 8 jeunes qui habitent pour la plupart dans des quartiers populaires de la métropole Tourangelle. Et qu'on va accompagner en fait pendant plusieurs mois. Cette année, c'était un peu plus court, pour imaginer ensemble et mettre en place un service ou une animation au service des habitants d'un quartier ou là, bah, du coup, d'un projet culturel, d'un événement culturel qui soit utile en fait à la cité, voilà, et qui s'appuie sur des outils numériques.
Pardon, je vous coupe. Vous faites donc partie de l'association Coopaxis et on a aussi du coup un jeune qui fait partie de ces brigades numériques, si je vous suis bien. Julien, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire ce qui t'a plu dans ce projet-là, ce qui t'a amené d'ailleurs à faire partie de ce projet-là?
Donc moi je m'appelle Julien Francino. Qu'est-ce que je veux dire? je suis dans la brigade numérique. Et comment vous dire? On m'a proposé Mavina et Yazid qui étaient là au moment où vous êtes venus à la Garantie Jeunes. Vous avez proposé cette chose où vous parlez de Carrie James, mais avant tout aussi, plus exactement, on va dire de l'exposition. Et moi, je connais un peu Carrie James, on va dire. J'ai écouté un peu certains de ses albums ou de ses titres. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'est notamment plus la rencontre, l'exposition, tout ce qui était faire un projet de A à Z. C'est tout simplement comme c'était la première fois, c'était ce qui m'intéressait de base. Et après, tout ce qui pouvait en découler, apprendre des choses que je ne connaissais pas de base, telles que certaines choses sur le numérique ou certains logiciels comment c'est participatif, le terme, je crois.
Collaboratif.
Voilà, collaboratif, que je ne connaissais pas et qui aujourd'hui je connais grâce à Copaxis et puis à Malvina.
Oui, parce qu'il faut aussi le préciser, il y aura donc une exposition collective au Grand Théâtre le 2 novembre, avant le concert de Kery James, c'est ça?
Oui, alors en fait, comment ça s'est passé? C'est que l'idée en fait des brigades numériques, donc c'est soit de mettre en place un service, soit une animation qui soit utile. Donc là, en fait, on a eu un contact avec Olivier Fresneau de la Smala Connexion, aussi en lien avec la Maison de la Réussite, puisque le projet des brigades numériques, il se déroule en partenariat avec la Maison de la Réussite de Tours. Et du coup, en discutant les uns avec les autres, en fait, du coup, on s'est dit, tiens, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire dans le cadre du projet des brigades numériques en lien avec l'événement concert de Kery James au Grand Théâtre? Donc du coup, on a un peu hésité. Au départ, on a tâtonné. Est-ce qu'on organise un concours d'éloquence sur voilà, les problèmes de notre société actuellement, sur la question de la réussite, sur apprendre, comprendre, enfin, en lien avec le projet ACES que porte Kery James et qu'accompagne la Smala dans sa concrétisation, enfin son déroulement à Tours. Et donc on en est venu à se dire, ben, on va créer une exposition collective sur le thème réussir, donc hashtag réussir. Qu'est-ce que ça veut dire réussir? C'est quoi les contraintes, les entraves, ce qui nous permet de réussir? Est-ce que c'est objectif, subjectif? Enfin, voilà, c'est les rêves de réussite, les réussites individuelles, les réussites collectives. Donc voilà, il y a plein de choses, c'est très large et ça nous permettait de. Du coup, on a lancé un appel à participation sur les réseaux sociaux avec le groupe, avec les jeunes. Et du coup, on a reçu des propositions de participation d'artistes à la fois amateurs, professionnels. Et du coup, et donc on va constituer une exposition à partir de ces œuvres l'après-midi en fait du 2 novembre à partir de 14h dans le hall du Grand Théâtre et juste avant le concert aussi, voilà, le soir même.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur finalement le terme du numérique, parce que brigade numérique, bon voilà, le terme est dans le nom, je dirais. C'est aussi, vous le dites notamment sur votre site internet, c'est de créer des services numériques innovants sur les quartiers avec des jeunes de 18 à 25 ans. Je cite, hein. Alors déjà, pourquoi s'appuyer sur des jeunes de 18 à 25 ans comme Julien? J'imagine que tu as entre 18 et 25 ans.
J'ai 23.
23,
voilà. Enfin, 24 maintenant, mais...
Ben, on est encore dans la...
J'ai
on
un peu du mal à le dire.
On est encore dans la tranche d'âge. Donc déjà, pourquoi s'appuyer sur la jeunesse? Est-ce que c'est finalement le numérique, c'est quelque chose qui est en plein boom, en plein essor? Est-ce que c'est aussi par la jeunesse que passe ce genre de projet?
Alors en fait, il y a deux... Il y a deux aspects, c'est que on a, alors peut-être un peu de moins en moins, mais on a quand même l'idée que les jeunes, a priori, ils sont nés dedans, donc en gros, ils en savent plein plus que les plus âgés. Alors que finalement, il y a pas mal d'études qui ont montré aussi que ce qu'ils connaissent, c'est quand même très limité. Et il y a beaucoup de consommation, et c'est pas forcément mis au service de la construction d'un parcours. Professionnels ou alors ils savent faire beaucoup de choses dans la sphère de, voilà, du personnel, mais en même temps comment valoriser ça sur le plan professionnel, surtout pour des jeunes qui n'ont pas un parcours scolaire, on va dire, idéal. Et donc il y a un peu oui, on s'appuie sur leur agilité, leur habileté, des savoir-faire qu'ils ont développés par eux-mêmes, et en même temps on est vigilant parce qu'ils ne sont pas tous à l'aise avec tout. Et par exemple, les outils collaboratifs, pour la plupart, ils ne les connaissent pas. Nous, on s'appuie beaucoup sur les outils libres. Voilà, la série d'outils, Framasoft. Donc, c'est aussi une manière de... En fait, c'est aussi une ouverture culturelle. C'est-à-dire, le numérique, oui, il envahit toutes les sphères de notre vie. Mais en même temps, on a une vision assez réduite de ce que c'est et de ce qu'on peut en faire, et surtout sur le plan créatif et de l'organisation collective. Donc comment on met ces outils-là vraiment au service plus de capacités, plus de capacités à faire, plus de capacités à faire ensemble.
Julien, je te voyais hocher de la tête. Est-ce que t'es d'accord du coup avec l'analyse de Malvina? Est-ce que tu as aussi appris des choses parce que tu fais partie de la génération du numérique finalement? Est-ce que c'est quelque chose qui est acquis pour toi ou t'as encore des choses à apprendre là-dedans?
J'ai encore des choses à apprendre, c'est clair et net. Y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et c'est un travail de très longue haleine de savoir beaucoup de choses sur le numérique. Le numérique, c'est quelque chose qui a priori est très vague et énorme aussi. C'est encore beaucoup de boulot, quoi.
C'est vrai que finalement, par le numérique, il faut aussi le définir. Ce terme, il se rapproche finalement des technologies de l'information et de la communication, ou même des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'on appelle vulgairement TIC ou NTIC, je ne sais pas si je prononce bien. Mais finalement, c'est un mot aussi, on dit digital en anglais et dans les pays anglo-saxons, c'est un mot qui est plutôt français, le terme de numérique pour désigner finalement les nouvelles technologies, en fait. Et ça passe par Internet. Vous dites aussi, du coup, de mettre le numérique au service de l'humain. En quoi vous le mettez au service de l'humain et par quoi ça passe de mettre le numérique au service de l'humain?
Du coup, en fait, on n'est pas dans des objectifs de créer de la performance technologique ou d'aller vers la création d'outils ou d'applications pour après en faire du business ou la fin en soi, c'est le défi technologique. C'est pas ça. C'est vraiment de se dire, il y a un certain nombre d'outils qui sont intéressants. On peut être plus ou moins intéressé par ces outils-là, mais en même temps, même si on n'est pas très intéressé, force est de constater qu'on est un peu obligé de faire avec quand même. Et du coup, c'est vraiment comment faire en sorte que ces outils-là, ils créent plus de liens entre les gens, plus de solidarité, et aussi, pourquoi pas, de l'économie, mais de l'économie respectueuse, en fait, à la fois de l'émancipation des êtres humains, de la connaissance qu'ils peuvent acquérir, du partage. C'est un certain nombre de valeurs. Quand on dit humain, c'est les valeurs de l'humanisme, du partage, de l'accès à la connaissance, de la production culturelle qui soit respectueuse de la diversité, en fait, de ce qu'on constitue, tout un chacun ensemble.
Est-ce que le numérique... il peut aussi desservir, enfin, est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger que le numérique desserve finalement les relations humaines? On le voit notamment, enfin, c'est en question dans la société avec l'apparition de la réalité virtuelle notamment. Est-ce que ça ne dessert pas finalement toutes ces avancées technologiques et le numérique, l'être humain? Je ne sais pas, Julien, qu'est-ce que tu en penses, toi qui vis du coup dans un monde comme tout le monde, mais qui fait partie de cette génération du numérique?
Bah, il faut être conscient que actuellement, avec le numérique, plus exactement avec l'amélioration d'Internet et toutes les technologies, les gens ont moins l'habitude de se rencontrer, de faire des soirées entre amis et choses comme ça. Donc obligatoirement, ça va impacter sur pas mal de choses de la vision et de la vie au final. Après, comme elle essaye de le montrer, ça peut, si on l'utilise correctement et en faisant les bonnes choses et en ayant les bons réflexes et en essayant d'améliorer les choses, on peut créer des choses. Je dis beaucoup le mot choses en ce moment. on peut créer notamment le Sanitamtam ou certains sites ou d'autres produits qui permettent au final d'aider les gens à communiquer plus facilement. C'est vrai que on le dit peu, le numérique a fait une sorte de fossé entre les gens. On a Facebook et choses comme ça où souvent je parle avec des gens et la chose qui ressort facilement de Facebook, c'est t'as plein d'amis, mais si t'es dans la merde, ils te laisseront dans la merde, quoi. C'est pas des vrais amis, c'est des personnes que tu rencontres sur Facebook, que potentiellement tu ne rencontreras sûrement jamais. Et c'est ça le problème, quoi.
Est-ce que toi, tu trouves ça dommage que finalement les rencontres aujourd'hui, et c'est aussi le cas pour les applications de rencontres, etc., se fassent finalement sur ce côté, dans ce côté virtuel? Alors pas toutes, évidemment, hein, heureusement, mais il y a quand même beaucoup de rencontres qui se font aussi via les réseaux et via les applications. Est-ce que toi, ça te fait un peu peur? Comment tu vois un peu cette chose-là?
Ça peut faire peur, tout dépend des applications, tout dépend par exemple les sites de rencontres. Je n'ai jamais fait de site de rencontres, je ne suis jamais inscrit dessus parce que je ne recherche pas spécifiquement et la plupart du temps les gens ce qu'ils recherchent c'est autre chose qu'une rencontre, on va dire autre chose que charnel.
Ouais.
Généralement c'est du charnel qu'ils cherchent, mais j'ai pas spécialement peur là-dessus comme j'ai vécu dans le genre de choses. Et par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance, enfin voilà, ça dépend quoi. Ça dépend des gens, ça dépend pas mal de choses. Il y a pas mal de choses à prendre en compte et c'est assez complexe là-dessus quoi.
Tu parlais tout à l'heure de Sanitamtam, c'est un projet qui a été mis en place l'an passé, c'est ça?
Alors en fait, ça a été mis en place avec des acteurs et des habitants du Sanitas. Le Sanitamtam... Depuis, enfin, il y a 6 ou 7 ans, jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, c'était un journal papier. Et donc l'idée, c'était de non seulement qu'il y ait un journal papier, mais qu'il y ait aussi une version numérique et qu'on puisse coproduire l'information entre associations, habitants dans le quartier du Sanitas, pour les habitants du Sanitas. Et donc du coup, l'année dernière, avec l'édition 2016 des Brigades Numériques, on s'est... appuyer sur le Sanitamtam pour imaginer en fait une plateforme d'échange de services entre habitants. Donc c'était à côté du Sanitamtam, en lien avec le Sanitamtam, mais le Sanitamtam c'est un blog en fait du quartier du Sanitas où tout un chacun peut écrire dessus pour communiquer des informations qui pourraient être utiles aux habitants du quartier.
Ceci étant dit, je vous propose tout de suite, Malvina et Julien, un petit quiz sur le numérique. Je vous l'ai promis en antenne et vous y avez le droit, je mets le jingle. Et on est parti pour le petit quiz. Alors, première question, est-ce que vous êtes prêts?
Ouais.
Ouais.
Oui. Alors, est-ce que vous savez le chiffre d'affaires en 2015 des ventes par le biais du numérique, c'est-à-dire vente de téléphones, d'ordinateurs, de livres, etc., qu'on achète via le numérique, donc par le site internet, etc., en chiffre d'affaires.
Moi, quand ça dépasse trop de nombre de zéros, je retiens rien du tout.
C'est vraiment difficile.
C'est trop nul.
C'est en milliards d'euros. Est-ce que vous avez un chiffre éventuellement à me soumettre?
Vas-y.
Dans les 5-6 milliards d'euros, peut-être, quelque chose comme ça.
C'est beaucoup plus.
D'accord, donc c'est vrai que...
5-6 milliards,
c'est gentil,
71,3 milliards d'euros donc de vente par le numérique. Et évidemment, c'est en pleine explosion d'année en année, puisque en 2010, c'était à peine 10 ou 20 milliards.
Les magasins physiques, ils font la tête.
Exactement. Deuxième question. Est-ce que vous savez le nombre de cartes SIM pour 100 habitants en France en 2015?
Oh là là, les questions.
Les cartes SIM pour 100 habitants.
Ah, c'est je vous avais prévenu, c'est des questions pièges.
En général, on dit qu'il y a un Français sur deux qui a au moins un téléphone, donc potentiellement une carte SIM déjà de base.
Ah, bon raisonnement.
Donc, c'est. Donc, pour 100 habitants, il y a au moins 50 qui ont une carte SIM quoi, de base.
Donc, pour 60 millions, ça fait 30 millions.
Alors, du coup, pour 100 habitants, il y en a 128. Parce qu'en fait, il y a aussi les cartes SIM professionnelles. Donc, en fait, gens cumulent deux cartes SIM parfois.
Ouais, maintenant, il y a les téléphones pro et.
Voilà,
perso.
Exactement. Exactement.
Ça fait beaucoup maintenant. Ouais.
Du coup, ça fait environ 83 millions de cartes SIM en France. Voilà.
Je me demande comment les gens ils arrivent à en sortir. Ils ont deux téléphones différents.
Ouais, c'est vrai.
Ça,
j'aurais un peu du mal aussi. Effectivement. Est-ce que vous connaissez le nombre de salariés dans le numérique en France en 2014? Le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur du numérique?
Alors là.
Une estimation.
Là, les estimations, c'est des trucs vraiment très pointus. Moi, je sais que là, il y a une entreprise là, qui est revenue en France il y a récemment, là, qui va ouvrir en 2017 une succursale, mais c'est une entreprise de jeux vidéo, quoi. Donc, sinon, après, en termes de trucs.
Alors, le chiffre, c'est 684 949 emplois. C'était en 2014, et évidemment, ça a sûrement évolué depuis, mais c'est pour montrer que, comme on le disait, finalement, c'est un secteur, le numérique, qui porte. En termes d'emploi aussi, en termes économiques. J'en viens du coup à la quatrième question, la part du numérique, ou plutôt, on va éviter la question, la part du numérique dans le PIB français, c'est de 5,5%. Donc sur les 100% du PIB, 5,5% viennent du numérique. Et c'est évidemment un chiffre qui risque, dans les années à venir, d'exploser, puisqu'on base une partie de notre économie sur le numérique. Dernière question, quel pays, selon vous, a le plus de bornes, j'ai cassé mon stylo en même temps. Quel pays, selon vous, a le plus de bornes Wi-Fi dans le monde?
De bornes Wi-Fi?
De bornes Wi-Fi, publiques, privées, toutes
confondues. C'est plus dans les pays asiatiques.
De bornes Wi-Fi publiques, pardon. Publiques.
Publiques, bah, en général, je sais pas, je tape dans les pays tels que le Japon, des choses comme ça.
Japon?
Moi, je dirais soit le Canada, soit... soit un des pays asiatiques, un pays asiatique.
Eh bien, ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est bien la France.
Ah.
C'est bien la France avec...
Cocorico.
Voilà, exactement, avec 13 millions environ, évidemment, 13 millions de bornes publiques de Wi-Fi. Et on est très loin devant les États-Unis qui sont seconds avec 9,58 millions de bornes. Mais il y a quasiment 4 millions de bornes de différence. Entre les États-Unis et la France, les États-Unis qui payent évidemment
les gens qui disent qu'ils n'ont pas de Wi-Fi.
Oui, non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, pour 2018, le projet était de couvrir 80% du territoire en borne Wi-Fi publique. Voilà pour la petite anecdote.
Il y a quand même des campagnes qui restent à l'écart
du réseau.
Il y en a où ils ont juste un fil, où il y a des trucs comme ça.
Ouais, qui restent à l'écart du réseau, effectivement. Ou en tout cas du haut débit. S'ils ont le réseau, ils n'ont pas forcément le haut débit. Ben voilà, le quiz, petit quiz, c'est terminé.
T'as été bon quand même, Julien. Moi, je suis une animatrice, moi.
Non, mais je tiens à vous rassurer, c'était des questions quand même très compliquées et qui nécessitent aussi des recherches en amont, etc. Donc évidemment que c'était pas évident de répondre. Est-ce qu'on peut revenir du coup à l'exposition collective donc au Grand Théâtre de Tours le 2 novembre? Est-ce que vous pouvez me parler un peu comment ça va se dérouler, ce qui va se passer le 2 novembre?
Donc le 2 novembre, donc si je me gourre, tu peux me venir dessus. Donc normalement l'exposition ouvre officiellement à 14h, donc on va faire jusqu'à quelle heure déjà? 17h je crois.
17h45.
Donc ça sera ouvert au public, les gens pourront venir, ils n'auront bien évidemment pas accès au reste normalement du Grand Théâtre.
Ça sera gratuit.
Oui, voilà. Ça faut le spécifier aussi quand même. Après on va rouvrir à
19h15
et on va finir...
avec le démarrage du concert, donc entre 20h et 20h30. Voilà.
Et après, ben, on restera un peu et après on rangera tout ce qu'il y a de nécessaire pour le ramener au local et choses comme ça après.
Voilà, donc ça c'est le déroulé.
Les déroulés classiques.
Le déroulé classique.
Et donc du coup dans cette expo, on trouvera donc les œuvres, enfin certaines des œuvres donc du coup qu'on a retenues des 14 artistes en fait qui nous ont fait le plaisir de nous
Ils ont
envoyer
été très gentils de nous
des
aider quand même.
participations. Et donc voilà, et donc ça, donc des vidéos, des peintures, des dessins, des textes, pas mal de textes
Oui,
d'ailleurs.
beaucoup, oui.
Et donc du coup, on a proposé à certains, enfin ceux qui le souhaitaient, de dire aussi les textes. Donc il y aura un moment entre 16h et 17h30 de petites performances live, slam, chansons.
Vous avez fait les délibérations hier, c'est ça?
Ouais.
Comment c'était, enfin, quels étaient les critères finalement de sélection des dossiers, des œuvres?
Alors du coup, on avait un thème qui est réussir. Alors bon, c'est très très large, hein, mais donc c'était le premier critère. Le deuxième critère, c'était la question technique. Est-ce qu'on est en mesure de pouvoir valoriser cette œuvre-là vu les moyens qu'on a? Et puis le troisième critère, c'est aussi qu'est-ce que nous dit le parcours de la personne sur la question de la réussite? Donc même si les œuvres il y a eu des débats hein, sur certaines en se
Oui, il y
disant
en a eu.
ouais
Ouais.
c'est pas vraiment en lien avec le thème tout
On a
ça mais
perdu
en même
beaucoup de
temps
temps sur les débats.
le parcours de la personne dit quelque chose sur qu'est-ce que c'est que réussir et réussir à s'exprimer, à partager des choses, à partager une vision de la société, du monde, voilà.
Alors pour le coup, c'est pas des œuvres exclusivement numériques. Il y a aussi des textes et des choses comme ça.
Ouais. Mais ça, je tiens à le dire, même par rapport enfin, à la discussion qu'on avait en début et sur la question de l'humain, dans les projets qu'on mène au sein de Coopaxis, et en tout cas que j'ai eu la chance d'accompagner en fait depuis 3-4 ans, c'est vachement important dans la méthode, en fait, tous ces allers-retours entre voilà, les supports numériques et puis le concret, le matériel, la relation humaine en présence, en fait.
Pour pas
Par
perdre le
exemple,
lien avec l'humain, en gros.
ouais, et puis parce qu'il y a des choses qu'on peut pas se dire, enfin, ou qu'on se dit différemment derrière des écrans. Donc du coup, justement, c'est bien de l'utiliser parce que ça peut aller plus vite, il y a des choses qu'on arrive à exprimer qu'on pourrait pas exprimer en face, mais inversement, il faut pas que ça remplace la relation
Oui,
en présence.
d'où les dangers, finalement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, du numérique, finalement, sur la vie, sur la relation humaine, classique, je
Pour
dirais.
moi, ça doit permettre de faciliter les échanges et d'amplifier la communication, l'information. Mais ça ne doit pas remplacer. Ça doit vraiment être un plus, un supplément. Voilà.
Alors, ça sera une exposition le 2 novembre interactive. Est-ce qu'on peut expliquer ce terme? En quoi elle sera interactive, en fait, cette exposition?
C'est moi qui me lance. Interactive, on aura un mur de SMS qui, par le biais d'un numéro de téléphone, on enverra les SMS sur ce mur. Donc, ça sera une œuvre participative, les gens pourront s'exprimer dessus. Après, on aura aussi notre mur d'expression un peu plus physique sur un panneau où les gens pourront aussi marquer des mots, même voire dessiner s'ils ont envie. Simplement, on veut que les gens puissent s'exprimer aussi eux, même s'ils n'ont pas participé de base à cette exposition, que les gens qui viennent puissent au moins s'exprimer eux aussi. On a tous une vision différente de la réussite et c'est bien aussi de partager cette vision différente.
Dernière petite question, c'est la deuxième édition des Brigades numériques. Vous comptez continuer l'année prochaine, développer le projet?
Bah oui, j'espère bien qu'on pourra continuer. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y en a certains. Donc, c'est des petits groupes, hein, mais du coup, ça permet de. On garde plus facilement le lien avec les uns et les autres. Et du coup, par exemple, bah, Yazid Mandi, qui était l'année dernière dans le groupe, il nous a rejoint en service civique cette année. Donc, il s'occupe du Sanitamtam, du bloc du Sanitas, du lieu aussi, du nouveau lieu qu'on a ouvert il n'y a pas longtemps, Place Neuve. Et du coup, par exemple, Fatoumata, qui était dans le groupe aussi l'année dernière, elle a rejoint un projet sur Saint-Pierre-des-Corps. Donc, elle est du Sanitas, elle a participé sur un projet à Saint-Pierre-des-Corps. Du coup, elle a rencontré des acteurs de Saint-Pierre-des-Corps au niveau de la musique, elle chante. Puis là, elle intervient dans les participants, elle va sûrement contribue, je veux dire, à l'exposition. Donc moi j'aime bien ça aussi. Les projets, en fait, c'est pas des fins en soi, c'est comme les outils, hein. C'est des prétextes, c'est des supports pour que les individus ils puissent construire un parcours petit à petit. Donc c'est créer du lien entre tous ces projets. J'avais un collègue qui avait imaginé la notion de grappe de projet. En fait, c'est les projets, ça crée des opportunités les uns pour les autres, et surtout pour les gens, en fait, pour qu'ils puissent aller butiner ce dont ils ont besoin à un moment T. Donc les brigades, oui, je pense que c'est après on a une formation, la formation donc qui est animée par Artefact, le CFIM. Il y a un de vos voisins là qui est pas loin, l'école du web et des réseaux, et puis l'AFPP, en fait, donc on co-anime et Copaxis a contribué à la mise en place de cette formation il y a 4 ans, donc découverte des métiers du numérique. Là, c'est déjà pour des jeunes qui, quand ils rentrent dans ces 3 mois de parcours, il faut ensuite qu'ils soient en mesure d'avoir le niveau de passer les sélections pour rentrer en formation qualifiante. Donc, faut pas que la marche soit trop trop haute. Donc, les brigades, c'est vraiment un espace de découverte. Pour ceux aussi qui ont des difficultés à s'exprimer, des problèmes de confiance, des problèmes pour trouver une place dans un groupe, qui sont pas très sûrs de leur projet, enfin de leur de donc c'est à la fois pour confirmer, pour prendre de l'assurance, pour travailler en équipe, et puis découvrir des outils, voir comment ces outils-là peuvent être mis au service de projets. Donc oui, je pense que c'est bien de le garder, ça serait bien de le poursuivre.